commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour, un livre, oui mais quel livre? Eh bien l'oiseau lire est là, l'oiseau délire, pour vous aider à choisir. Aujourd'hui, une émission difficile à faire. Difficile de parler de livres après ce qui s'est passé. Alors je vais commencer par un poème. Un poème qui est extrait d'un recueil de Rue du Monde. Je rêve le monde assis sur un vieux crocodile. Un poème qui a été écrit le 10 janvier 2015 après l'attentat à Charlie Hebdo. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui dont le cœur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité. Celui qui désire ardemment, plus pour eux que pour lui-même, liberté, paix, dignité. Celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui. Celui qui, dès qu'il ouvre les yeux au matin, se pose la question « Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme ?» Un poème d'Abdelatif Labi, écrit le 10 janvier 2015 et qui est malheureusement autant d'actualité. Donc, je vais vous représenter rapidement un livre dont je vous ai déjà parlé en janvier 2015. « Je t'enverrai des fleurs de Damas » de Franck Andria, qui nous plonge dans l'embrigadement, dans comment ces jeunes partent en Syrie. Donc Wassim et Othman sont partis combattre en Syrie. Au collège, la nouvelle arrive. Myriam, l'amoureuse de Wassim, n'a rien vu venir. Elle nous dit sa douleur, son incompréhension. Elle nous le dit en communiquant avec un enseignant qu'on appelle Bébé Kougnou, un enseignant très à l'écoute de ses élèves. Donc c'est un livre en plusieurs voix qui nous dit ce qui se passe en Syrie parce que Wassim envoie des messages, son embrigadement, son désir de mourir pour ce qu'il défend et l'incompréhension de Myriam. Pour elle, la religion, c'est pas ça. Elle dit « J'ai l'impression que ma religion et mon Dieu peuvent être utilisés par des gens mauvais et ça me pose une grande peine. Les paroles qui me guident peuvent aussi servir à tuer si on les entend mal, si on les lit mal. J'imagine que c'est ainsi que Wassim s'est fait piéger, lui l'idéaliste qui rêvait d'un monde meilleur où chacun s'engage pour son prochain. » Donc un livre à lire, un livre qui est dans la sélection des dévoreurs de livres pour les troisièmes cette année. Donc un livre qui sera lu par beaucoup de collégiens. Et dans mes recherches, j'ai retrouvé Norland de Jérôme Leroy aux éditions Syros, un livre que j'avais beaucoup apprécié et un livre qui nous plonge dans l'horreur, dans ce qui s'est passé le 22 juillet 2011 en Norvège, où un militant raciste d'extrême droite a d'abord posé une voiture piégée dans le quartier du ministère dans le centre d'Oslo et est ensuite parti avec un uniforme de policier sur l'île d'Utøya où, arrivé sur place, il a tiré sur les adolescents qui étaient là pour militer contre la montée de l'extrême droite et du racisme. Et il a été arrêté et a dit qu'il avait fait ces meurtres au nom de la supériorité de la race blanche menacée par les étrangers et par l'islam. Donc on est dans cette horreur et cette horreur nous est racontée par une héroïne qui est hospitalisée parce qu'elle ne supporte pas le fait qu'elle se sente complètement coupable parce que pour infiltrer les milieux, ce raciste s'était fait aimer d'elle et elle lui a donné des codes d'entrée, elle lui a laissé passer des informations dont il s'est servi pour commettre ses meurtres. Et il l'a épargnée, elle, et elle vit avec le poids de sa culpabilité. Norland de Jérôme Leroy. comme c'est la musique qui a été agressée, où on a tué les gens qui étaient dans des concerts, je voudrais, avec quelques romans sur la musique, vous montrer que la musique... Enfin, vous montrer, non, les auteurs l'ont fait pour nous. Montrer que la musique est aussi une solution pour s'en sortir, pour faire des choses extraordinaires. Avec un roman, Maestro, de Xavier Laurent Petit. Xavier Laurent Petit qui s'inspire presque toujours dans ses romans de faits réels pour nous romancer ce fait réel et nous faire vivre avec les héros. Donc là, on est dans une dictature en Amérique du Sud où des enfants sont des enfants des rues, des piluelos, comme on les appelle. Il y a Saturno, Lucia, la patte folle. Ils sont cireurs de souliers, ils survivent comme ils peuvent en vivant dans la rue. Et un jour, Saturnino rencontre un homme, un vieil homme à qui il cire les chaussures, et cet homme lui demande de le rejoindre avec tous les enfants des rues, enfin le plus possible d'enfants des rues. Il lui donne un lieu de rendez-vous. Ils y vont, inquiets, se demandant ce qu'on leur veut, parce qu'habituellement, quand on les convoque, c'est plus pour des choses pas agréables. Et là, ils vont découvrir un homme qui va leur faire aimer la musique. Il va essayer d'en faire des musiciens. Jour après jour, ils vont le retrouver, s'entraîner pour essayer de monter un orchestre. Ils vont apprendre à jouer ensemble, ils vont apprendre chacun à jouer d'un instrument. L'un d'eux a une voix extraordinaire, lui se servira de sa voix. Et puis un jour, le dictateur téléphone et dit qu'il vient voir ce qui se passe avec ses enfants. Alors il faut vous dire, parce que bon voilà, je vais dévoiler quelques secrets de ce livre, que ce dictateur a été, lorsqu'il était enfant, ami avec ce musicien. Bien sûr, après ils ont pris des voies différentes. Et le musicien veut montrer à ce dictateur que ses enfants des rues sont capables de faire des choses extraordinaires. Donc le dictateur vient, les enfants jouent, il est étonné, mais dans la rue monte une révolte parce que les gens de la rue ont su qu'il était là et veulent sa peau. Donc la révolte gronde, les enfants vont devoir s'échapper normalement, le feu va être mis au lieu où ils sont réunis, mais d'un seul coup, les flammes s'élevaient çà et là, elles léchaient déjà les murs, se glissaient le long des escaliers, la fumée tourbillonnait. Les instruments, a crié Juan, il faut sauver les instruments. Quand on s'est précipité vers le salon de musique, on n'y voyait déjà plus rien. La fumée était partout, brûlante, étouffante, irrespirable. Elle envahissait les couloirs et seconde après seconde, nous enserrait un peu plus dans son brouillard opaque. On n'a pas reculé. Le salon de musique avait été saccagé, pillé. Les disques du vieux étaient par terre, piétinés, cassés et sa chaîne était en miettes. Certains avaient tenté de mettre le feu aux instruments. Plusieurs portaient la trace des flammes et d'autres avaient été piétinés. Juan a attrapé le premier violon qui lui est tombé dans les mains. Il l'a passé à Zach, qui l'a passé à Nosfia. Plus vite, plus vite! On a fait la chaîne pour sauver nos instruments. Tout le monde toussait. J'ai noué mon t-shirt sur ma bouche. Lucia a fait la même chose. Mais malgré tout, je sentais mes poumons se racornir peu à peu. La fumée devenait de plus en plus dense. Il ne restait plus que quelques instruments quand on a dû abandonner. C'était trop risqué, trop tard. Faut partir, Lucia, ai-je hurlé. Pas rester là! Je l'ai attrapé par la main et on a couru vers la sortie, courbé à ras le sol pour tenter de trouver un peu d'air. On se bousculait dans les couloirs, envahis de fumée. Malgré les flammes qui par endroits projetaient des éclats gigantesques, j'avais l'impression de courir en pleine obscurité. Je ne savais plus où j'étais. Lucia s'agrippait à moi de toutes ses forces. On a enfin retrouvé l'escalier. On butait contre les bancs renversés, les étuis de violon abandonnés. Là, on se relevait en les piétinant et on repartait. La main de Lucia était crochetée à la mienne. Je ne sais pas comment on a fait pour rester ensemble. Je ne sais pas non plus comment on s'est retrouvés dehors. On a couru un moment, toujours droit devant nous, sans savoir où on était ni où on allait. Tout autour, les autres fuyaient aussi. Certains pleuraient, d'autres restaient cloués sur place, pliés en deux par d'interminables quintes de toux. Je ne me suis arrêtée que lorsque j'ai senti qu'on était enfin hors de portée des flammes et de la fumée. Je haletais comme un chien, la gorge et les poumons déchirés par la chaleur, la bouche sèche comme une pierre. Écroulée contre moi, Lucia palpitait avec des gémissements de bête blessée. On n'avait plus la force de parler ni de bouger. on tentait seulement de reprendre haleine. Là-bas, du côté de l'Escuela, les flammes jaillissaient de partout, attisées par la brise tiède qui balayait la vallée. Elles se tordaient en tous sens et escaladaient la façade. Les pierres elles-mêmes semblaient s'embraser comme des brindilles. Quand enfin j'ai regardé autour de moi, j'ai réalisé qu'on s'était réfugié sur les marches de l'ancien Ayuntamiento. Les autres nous ont rejoints peu à peu, les yeux rougis par la fumée, les mains brûlées, le visage noir des cendres qui voltigeaient partout comme des flocons. Appuyés contre les pierres, ils toussaient à n'en pas finir. La chaleur était insoutenable, le souffle de l'incendie nous desséchait sur place et porté par le vent, des milliers d'escarbilles voltigeaient autour de nous. Mais maintenant qu'on était hors de danger, personne ne bougeait. Une série de détonations toutes proches a soudain ébranlé l'air brûlant. Les fenêtres de l'Escuela explosaient sous la chaleur. Elles éclataient une à une en milliers de minuscules morceaux de verre qui jaillissaient dans toutes les directions et venaient se ficher dans la poussière du sol à quelques pas de nous. Les flammes se sont engouffrées en ronflant par les ouvertures de plus en plus hautes, de plus en plus violentes. En quelques secondes, elles ont atteint la toiture. L'Escuela n'était plus qu'une fournaise rouge comme l'enfer. Dans un vacarme de fin du monde, la toiture s'est affaissée d'un bloc. Une immense gerbe d'étincelles a jailli de la fournaise en embrasant le ciel jusqu'aux étoiles. Les crapauds se sont tus, le jour s'est levé, il ne restait rien de l'Escuela. À quelques mètres des murs, ruines fumantes, des amas informes d'instruments et d'étuis rongés par les flammes s'entassaient à même le sol, recouverts par cette impalpable poussière grise qui flottait dans l'air. Tout ce qu'on a pu sauver de l'incendie était là. Sorti de je ne sais quelle cachette, Azula nous rejoignait, suivi de ses trois petits à la queue leuleux. Azula, c'est une petite chatte qui a échappé à l'incendie. Tartamudo s'est levé si doucement que je n'y ai d'abord pas fait attention. Il a fait quelques pas vers l'Escuela, rouge de noir de crasse et les cheveux à moitié cramés. Une longue estafilade sanguinolente lui barrait le visage. Il s'est juché sur un pan de mur encore fumant et a fermé les yeux, comme pour refuser de voir toute cette désolation de merde qui nous entourait. Il a pris une longue inspiration et j'ai cru entendre la voix de la petite dame racornie comme un abricot sec en train de l'engueuler. « Ici, tête de mule, tu le prends ici ton air, pas le ventre, c'est compris ?» Les aigles mêmes ont cessé de crier quand il a commencé à changer, à chanter. « Je n'aime rien que la douce paix, je ne désire rien d'autre que la liberté. » Personne ne comprenait rien aux paroles, on ne savait même pas en quelle langue il chantait. Peut-être même que ça voulait rien dire et qu'il inventait tout ce charabia. Mais c'était si beau qu'on s'en foutait. La voix d'ange de Tartamudo voltigeait au milieu des décombres fumants. Elle glissait tout là-haut avec les aigles, bien au-dessus des ruines, et nous emmenait des milliers de kilomètres d'ici. Médusés par la pureté de la voix qui sortait de ce gros corps pâteau, les gens approchaient sans le moindre bruit. Ils se figeaient à quelques pas de Tartamudo, les yeux fixés sur ce grand escogriffe noirci et sanguinolent qui chantait comme un habitant du paradis. Et à la fin, les enfants vont réussir, avec le vieux qui sort des ruines, à jouer avec leurs instruments tout abîmés. J'aurais pu vous parler aussi de Swing à Berlin, où la musique est utilisée d'abord par Hitler et puis ensuite l'orchestre va s'en servir pour résister. J'aurais pu vous parler, et j'espère que vous allez le reprendre, de Matin Brun, de Frank Pavlov, qui nous dit qu'il ne faut pas se laisser entraîner, qu'il faut résister. Un petit livre à 2 euros à lire depuis des années par tous. Voilà, merci, à bientôt, dans 15 jours, et j'espère que nous aurons des choses plus réjouissantes à vous proposer.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.